Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, nous sommes le samedi 12 février 2022. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de 7h en français au programme aujourd'hui. Dans notre rétrospective, comme chaque samedi, nous partirons direction l'année 1968 et l'incroyable semaine de Jean-Claude Killy aux Jeux Olympiques de Grenoble. Et nous parlerons également à Nathanaël Bloch pour Europa Voice et sur le sujet cette semaine, à quoi joue donc la Russie en Ukraine. Mais pour l'heure, il est temps de passer au journal. Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Les ressortissants étrangers en Ukraine sont invités à partir alors que les États-Unis avertissent qu'il y a une possibilité d'une invasion russe qui pourrait commencer à tout moment. Et le ton qui monte et la pression qui monte également au Canada dans ces convois de la liberté. On débute donc ce journal avec plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, qui ont demandé à leurs ressortissants donc de quitter l'Ukraine. Cela intervient alors que les responsables américains émettent de nouveaux avertissements selon lesquels une invasion russe de l'Ukraine pourrait commencer, je cite, à tout moment et peut-être même pendant les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Le conseiller de la sécurité nationale, Jack Sullivan, a déclaré lors d'un point presse à la Maison-Blanche que les États-Unis ne disposent pas d'informations définitives selon lesquelles une invasion a été ordonnée par le président russe Vladimir Poutine, mais toutes les pièces sont en place pour une opération militaire majeure, selon lui. On l'écoute.
If you stay, you are assuming risk. With no guarantee that there will be any other opportunity to leave, and there no prospect of a U.S. military evacuation in the event of a Russian invasion. If a Russian attack on Ukraine proceeds, it is likely to begin with aerial bombing and missile attacks that could obviously kill civilians without regard to their nationality.
Voilà donc le message des États-Unis assez ressortissant dans la région au niveau de l'Ukraine. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau lance un avertissement sévère aux manifestants anti-vaccins. L'état d'urgence a été déclaré plus tôt aujourd'hui. Depuis 5 jours, les camionneurs perturbent les chaînes d'approvisionnement et bloquent le pont Ambassador. C'est la frontière terrestre la plus fréquentée d'Amérique du Nord. Un juge canadien a maintenant accordé une ordonnance au tribunal pour que les manifestants à la frontière américano-canadienne tout simplement partent et débloquent le pont. Le Premier ministre Justin Trudeau dit qu'il y aura de graves conséquences si ceci ne se passe pas. On l'écoute.
Make no mistake, the border cannot and will not remain closed. I want to remind everyone that politicians don't direct police in a democratic society, but I can assure you that the RCMP is working with provincial and local police departments to enforce the law. Everything is on the table because this unlawful activity has to end and it will end.
Voilà le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Alors le point sur la situation à Ottawa et à Détroit et dans toute la partie du Canada et de la frontière canadienne-américaine avec Guillaume Nodin.
C'est calme et c'est même très calme. Sur l'autoroute, les voies d'accès au pont sont fermées depuis plusieurs jours. Les autorités américaines ne veulent pas que les véhicules s'accumulent. En fait, ils sont déviés bien avant vers un pont plus petit situé à Port Huron, plus au nord. Le trafic est donc considérablement réduit. Au moins, il y a moins de bruit, confie un commerçant du quartier, qui ne voit pas d'impact notable sur son activité. Quelques centaines de mètres plus loin, juste à la sortie de la zone de service du pont, la situation est un peu différente. De grands parkings sont presque complètement vides. La gérante d'un restaurant mexicain explique que les premiers jours ont été difficiles avec beaucoup d'annulations liées aux embouteillages. La situation s'est améliorée depuis, mais les clients canadiens manquent à l'appel et cela se ressent sur le chiffre d'affaires. Malgré tout, elle comprend les protestataires. Aux États-Unis, pays des libertés, les gens sont méfiants vis-à-vis de toutes les restrictions et obligations. La gouverneure démocrate de l'État du Michigan, Gretchen Whitmer, est beaucoup plus inquiète. Elle rappelle que ce sont plusieurs centaines de millions de dollars de marchandises qui transitent habituellement chaque jour par ce pont et que ce blocage, s'il se prolonge, pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'économie de son État et des États voisins.
C'était Guillaume Naudin pour RFI. Aux États-Unis, la hausse des prix a atteint des chiffres records en janvier. En effet, 7,5%, c'est le chiffre d'inflation enregistré le mois dernier. C'est tout simplement du jamais vu depuis 30 ans. Et la flambée des prix, eh bien, annonce peut-être une possible hausse des taux directeurs. Et c'est important, car de nombreuses économies mondiales, eh bien, s'ajustent et se calent sur ce taux, comme nous l'explique Pauline Gless depuis New York.
La Fed est tiraillée, garder des taux directeurs bas pour favoriser la reprise économique ou les remonter pour limiter la demande et donc l'inflation. Pendant des mois, la Réserve fédérale a assuré que la flambée des prix ne serait que temporaire. Alors ces nouveaux chiffres de l'inflation combinés à un marché du travail tendu devraient animer les débats à la Banque centrale américaine. Pour l'instant, les analystes d'UniCredit misent toujours sur une hausse des taux d'un quart de point, comme c'est généralement le cas. Mais la possibilité d'un mouvement plus important augmente. C'est pour cela que les taux obligataires se sont nettement tendus, et en particulier ceux de court terme. Dilemme, il y a également de l'autre côté de l'Atlantique. Cela dit, la présidente de la Banque Centrale Européenne temporise après avoir secoué les marchés la semaine dernière en déclarant que la BCE évaluerait à partir de mars l'opportunité de relever les taux. Christine Lagarde assure qu'elle n'agira pas de manière précipitée. Une hausse rapide ne résoudrait aucun des problèmes actuels selon elle, ni l'envolée des cours du pétrole, ni les difficultés dans les chaînes d'approvisionnement.
C'était Paul Inglès pour RFI. Des révélations qui sont sorties selon lesquelles Donald Trump aurait emporté des dossiers gouvernementaux avec lui à Mar-a-Lago sont un véritable casse-tête politique pour l'ancien président et un casse-tête juridique potentiel également pour lui. Des enquêteurs de la Chambre et du Parlement ont lancé donc une enquête une enquête liée avec la National Archive on aurait demandé au ministère de la Justice de se pencher donc sur la question. Eric Tucker de l'Associated Press dit que c'est un archiviste qui a demandé qu'une enquête soit faite. On l'écoute.
According to the Washington Post, some of the records that were found were torn, were marked up, and some were apparently marked as classified at the top secret level. And the newspaper has said that the archivist has asked the Justice Department to look into whether any laws were violated.
Voilà, donc c'est une affaire qu'on suivra très certainement dans les journaux à venir. Herbert Lopez, qui était le directeur du site d'information en ligne Noticias Web, a été abattu jeudi au Mexique, dans l'état méridional du Oaxaca. C'est le cinquième journaliste tué cette année en Mexique. Le bureau du procureur de la République a déclaré que deux suspects du meurtre avaient été arrêtés, ils sont en garde à vue, et qu'une arme à feu d'ailleurs avait été récupérée. Des témoins disent que vers 18h30 hier, M. Lopez était dans son bureau lorsque quelqu'un a sorti d'un véhicule blanc est entré dans le bureau et lui a tiré dessus. On écoute Rodolfo Canseco Gutierrez, reporter et un ami du journaliste assassiné.
This left two children orphaned, a 12-year-old and a 5-year-old, and a widowed woman. The saddest thing is that the 12-year-old boy was with his father at the time he was shot. Fortunately, he was not injured.
Afortunadamente, no tuvo ninguna herida.
Voilà donc la situation au Mexique et les journalistes. En Allemagne maintenant, ouverture du festival du cinéma de la Berlinale, c'est la 72e édition, un festival qui n'avait pas pu se tenir physiquement l'année dernière. La cérémonie d'ouverture marquait donc un retour à la quasi-normale depuis Berlin. Sophie Torlotin.
La salle du Berlinale Palace est remplie à moitié. En smoking ou robe de soirée, les invités portent des masques très protecteurs, mais ils sont bien présents.
Quel plaisir de vous voir ici, tous.
La ministre allemande de la Culture, l'écologiste Claudia Roth, clame sa joie de voir se tenir la Berlinale après l'ersatz numérique de l'an dernier.
Die Berlinale, sie findet statt.
Cette année, il n'y aura pas de grosses productions américaines, mais la pandémie force le monde des festivals à se réinventer.
So this Berlinale wants to be a step forward to our reality.
Ainsi, le directeur artistique, Carlo Chatrian, reconnaît que les contraintes sanitaires peuvent pousser à être plus créatifs et audacieux. Le jury, présidé par l'américain M. Night Shyamalan, le réalisateur du Sixième Sens, compte des personnalités de tous horizons, comme la cinéaste zimbabwéenne Tsitsi Dangaremba ou le producteur français Saïd Ben Saïd. Pendant 6 jours, une édition raccourcie, ils visionneront 18 films en lice pour l'Ours d'Or. Premier à ouvrir le bal,
François Ozon.
François Ozon présente Peter van Kant, hommage à son modèle, le cinéaste allemand Rainer Werner Fassbinder.
Commençons, let's start the Berlinale.
Voilà, donc les résultats de la Berlinale, probablement dans notre émission de samedi prochain. Coup d'œil météo en cette fin de journal pour aujourd'hui. À Perth, il fera 28 degrés, 31 degrés pour Adélaïde, 29 pour Melbourne, 21 pour Hobart, 23 pour Canberra. Il fera 26 degrés à Sydney, vous aurez 30 degrés à Brisbane, 32 à Cairns et 33 degrés à Darwin. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Les ressortissants étrangers en Ukraine sont invités à partir alors que les États-Unis avertissent qu'une invasion russe pourrait commencer très rapidement. Et le ton qui monte avec la pression qui monte sur le gouvernement au Canada et les convois et ces camions qui bloquent le pont ambassadeur. Voilà, il est 13h11, courte pause. On se retrouve tout de suite après quelques pubs et une chanson dans le programme en français. Vous écoutez Radio SBS.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench.
Notre rétro sonore, nous sommes le 12 février, direction l'année 1968. Le français Jean-Claude Killy décrochait la deuxième de ses 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. La folle semaine de Jean-Claude Killy qui l'a fait entrer dans la grande légende du sport. L'or en descente le 9 février, le slalom géant le 12 et le slalom spécial le 17 février 1968. Donc c'est notre rétro sonore avec les archives de l'INA, de Gaumont, Pathé et de France 3.
Premier, médaille d'or, Jean-Claude Killy.
Ce matin, à Champs-Rousses, les quelques 100 rescapés de la première manche du slalom géant homme disputaient leur seconde et dernière manche. La visibilité est des plus douteuses. Il tombe une neige pulvérulente. Jean-Claude Killy, calme, concentré, volontaire, il veut encore une fois frapper un grand coup et gagner sans partage et absolument sans discussion.
Lundi 12 février, la deuxième semaine olympique s'annonce nébuleuse. Sauf pour Jean-Claude Killy sur son petit nuage. Le skieur remporte le slalom, triomphe des éléments et subjugue le commentateur d'alors.
Mais nous n'avons qu'un souci pour Killy. Il est en forme, il laisse éclater sa classe. Ici au ralenti, voyez comme il déclenche son virage très haut. C'est extraordinaire de hargne, de puissance. C'est gagné. Il laisse Willy Favre à 2 secondes 22 centièmes. Bravo Killy, une deuxième médaille d'or. À Caen, la passe de 3.
Premier grand rendez-vous, le 9 février à Champs-Rousses. C'est la descente homme sur la piste de Casse-Rousses. Toute la France attend Killy, Toutoun comme on l'appelle à Val d'Isère, où le curé a annulé le catéchisme pour voir la course à la télé.
Jean-Claude Killy est en piste. Le voici, il débouche très bien dans la bonne ligne. Il est dans le juste d'arrivée actuellement. Il est dans les temps des meilleurs, 26 fois fait Guy Périlla, 1,59,85, Guy Périlla est battu de 8 centièmes de seconde.
1968, en France, 3 hommes font l'actualité. Charles de Gaulle, Daniel Cohn-Bendit et Jean-Claude Killy. De Gaulle et Cohn-Bendit s'affrontent dans la tourmente de mai. Killy, lui, affronte la tourmente de Champs-Rousses.
Jean-Claude Killy, première médaille d'or. À peine arrivé, il est assailli par le public et les journalistes.
Non, mais je crois qu'avec Killy, il n'y a pas de problème. Il a la tête froide, il sait répondre d'un mot aux uns et aux autres. Voyez-vous, il est extrêmement décontracté. Il a le sens des relations publiques maintenant, Killy, incontestablement. Vraiment un très grand bonhomme. D'ailleurs, ça ne peut être qu'un très grand bonhomme qui puisse remporter une telle épreuve. Si suffit pas d'être un athlète, il faut être aussi intelligent.
Jean-Claude, avez-vous conscience d'avoir fait une course sans faute?
Oh, j'ai fait une excellente course, vraiment très bonne, et j'en suis très content.
La médaille d'or était déjà réservée à un Jean-Claude Killy imbattable sur tout terrain.
Trois jours plus tard, Killy remporte le géant. Déjà deux médailles d'or, des exploits retransmis dans 32 pays et suivis par plus de 500 millions de téléspectateurs. Killy est un héros.
Dans un brouillard presque londonien.
Mais pour entrer dans la légende, il faut encore gagner le slalom. Le scénario sera digne de Hitchcock dans des conditions épouvantables. L'Autrichien Karl Schranz, gêné par le brouillard, est autorisé à refaire sa course. Il croit alors avoir gagné, mais les images télé permettent au juge de visionner sa course. Il va rater deux portes. Il est disqualifié.
Pour réussir sans faute cette épreuve, il fallait connaître le parcours par cœur. Ce fut le mérite de Jean-Claude Killy qui, grâce à une mémoire aussi remarquable que sa virtuosité, établit finalement le meilleur temps, obtenant ainsi sa troisième médaille d'or.
Triplé pour Jean-Claude Killy, à cet instant précis, ce n'est plus un skieur, c'est une star.
Après le triplé historique des Jeux Olympiques de Grenoble, Toutoun, décoré de la Légion d'honneur, arrête le ski, il se lance dans le business. Homme d'affaires international, il vend la montagne et le ski français, il vend aussi ses vêtements, la griffe Killy existe. L'homme n'a qu'un certificat d'études en poche, mais il travaille comme mille et il réussit. Il côtoie les plus grands, ses copains s'appellent Steve McQueen, Clint Eastwood. Le 17 octobre 1986, l'une de ses plus belles journées.
Albertville, hein? Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville, célébrant les 16e Jeux Olympiques d'hiver.
Co-président du COJO avec Michel Barnier, Jean-Claude Killy devient l'homme des Jeux d'Albertville. Il les réussit à la perfection. Killy n'est pourtant pas un homme blasé, il a ses jardins secrets. L'aviation le démange, il est le parrain de la patrouille de France. Ses idoles, les héros de l'aéropostale, Saint-Exupéry en tête.
Premier, médaille d'or, Jean-Claude Killy.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Allez, je voulais que la dernière note, Lerita Mitsuko, bien sûr, et cette chanson Communiqueur d'amour qui fait partie de notre sélection musicale. Il est 13h26, on fait une courte pause et on va écouter une première partie d'Europa Voice de cette semaine. Et on se pose la question, à quoi joue donc la Russie en Ukraine? C'est tout de suite après ça. Europa Voice numéro 91 est de retour après la pause estivale. Nous sommes bien entendu avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe, heureux de vous retrouver.
Alors, ça fait une petite pause, hein, mais bon, l'été s'est terminé, il s'est passé énormément de choses et on va partir bien sûr directement pour le conflit ukrainien, la situation en Ukraine et en Russie. Et bien entendu, Emmanuel Macron qui était dans la région cette semaine. Expliquez-nous un petit peu tout ça parce que c'est quand même assez compliqué cette situation.
On va commencer, Christophe, par mentionner la toute récente tournée diplomatique d'Emmanuel Macron, puisque le président français en fait avait d'abord commencé la semaine avec un entretien avec le président Vladimir Poutine, puis mardi, le jour d'après, il s'était entretenu avec le président ukrainien Zelensky, et il avait fini cette tournée diplomatique avec un dîner de travail à Berlin. Donc effectivement, il y a de l'agitation en ce moment en Europe autour de ce dossier ukrainien, et puis encore une fois, comme la France assure la présidence tournante de l'Union européenne, effectivement, c'est Emmanuel Macron qui a la manœuvre. Alors ça, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Mais en fait, cet épisode ukrainien, j'allais dire, il a deux éléments qu'il est important de mentionner pour nos auditeurs d'SBS. D'abord, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, au mois d'octobre dernier, on avait déjà les responsables américains du renseignement qui s'inquiétaient de mouvements de troupes russes à la frontière ukrainienne. Et donc, on avait eu les chefs de la diplomatie à ce moment-là, Christophe, américaine, Anthony Blinken, et française, Jean-Yves Le Drian, qui avaient déjà dénoncé cette activité russe. Donc, vous voyez, en fait, on est déjà 4 mois après, j'allais dire, la mise en garde des alliés européens et américains. Ça, c'est l'élément de court terme. Mais il faut aussi le rappeler à nos auditeurs d'SBS, c'est que en fait, cet épisode de tension avec l'Ukraine, il n'a pas commencé maintenant. Il y a deux éléments. Il y a d'abord le fait que effectivement l'Ukraine s'est détachée du bloc soviétique en 91, et puis plus récemment, plus proche de nous, on avait ce qui s'était passé à Maïdan, et on avait ces incidents autour de la Crimée en 2004 avec l'annexion par la Russie de la Crimée. En février, à partir de février 2014, on avait eu des mouvements qui avaient amené à cette annexion.
Donc, alors justement, Nathanaël, là-dessus, est-ce que d'un côté historique, on peut se dire non, mais bon, Poutine n'agressera pas l'Ukraine, mais il l'a déjà fait. Ça a déjà été fait, et même si on a haussé le ton d'un côté européen, je vais être un peu brut, hein, de décoffrage, mais on a haussé le ton d'un côté européen, on n'a quand même rien fait par rapport à ça, et la Crimée est maintenant russe, ça fait partie des cartes russes. Donc, est-ce qu'aujourd'hui la peur elle est là qu'en fait c'était un coup d'essai et que le reste peut être compliqué justement pour la situation géopolitique dans la région?
Je vais vous répondre encore une fois, il y a pas de réponse trop simple à ces questions là. Je crois qu'il y a deux aspects, Christophe. D'abord, il faut préciser qu'en 2014, avant que la Russie n'annexe la Crimée, l'événement qui était déclencheur, c'était que le gouvernement pro-russe à l'époque de Viktor Yanukovych, lui, il est renversé, et selon Moscou, à la faveur d'une déstabilisation orchestrée par Washington. Donc, d'abord, le premier élément, vous avez mentionné l'Europe et que l'Europe n'a rien fait, c'est qu'il faut faire quand même rentrer le grand frère américain dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est plus compliqué que simplement une relation Union européenne-Russie. Il y a évidemment les États-Unis qui sont impliqués dedans, parce qu'il y a aussi des liens historiques entre les États-Unis et l'Ukraine. Les États-Unis possèdent une importante communauté ukrainienne. Ils ont financé en fait beaucoup les mouvements de démocratie dans la région. Donc d'abord, c'est le premier élément, c'est que dans ce puzzle, il y a l'Union européenne, il y a la Russie, mais il y a aussi les États-Unis. Puis après, sur le propos que l'Europe n'a rien fait, alors effectivement, d'un point de vue, j'allais dire militaire, il n'y a pas eu de réponse aussi importante ou à la même hauteur que l'annexion de la Crimée par la Russie. Mais après, il faut dire que l'Union européenne, elle, c'est quoi son enjeu? C'est en fait de faire rapprocher l'Ukraine de ses portes de l'Union européenne et l'éloigner un petit peu de l'influence du grand frère russe. Donc il y a quand même eu des choses qui se sont faites d'un point de vue, j'allais dire, de la construction politique. Par exemple, on a un accord de libre-échange qui a été signé en 2014 entre l'Union européenne et l'Ukraine. Alors, effectivement, Christophe, aujourd'hui, le principal partenaire de l'Ukraine, ça reste encore la Russie, mais on voit bien que l'Europe, moins, j'allais dire, du point de vue militaire que du point de vue diplomatique, politique, essaye quand même aussi d'augmenter ses sphères d'influence sur l'Ukraine. Et puis après, sur la question, j'allais dire, de la riposte, il y a eu un très bon article, une très bonne tribune d'un chercheur, Bruno Tertré, qui est le directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique et qui est politologue, qui expliquait en fait deux choses par rapport à cette difficulté de mettre en place une dissuasion par rapport à la Russie. D'abord, il expliquait qu'il y avait une asymétrie des enjeux, c'est-à-dire que d'une certaine façon, pour Moscou, l'Ukraine, ça reste un gros dossier, alors que pour les Occidentaux, finalement, c'est un dossier de sécurité européenne, mais c'est pas existentiel, ça menace pas les frontières ou le devenir de l'Union européenne. Donc la Russie, de fait, s'implique un peu plus dans ce dossier ukrainien que ne le ferait l'Union européenne. Et puis le deuxième élément, c'est que ce chercheur estime que Vladimir Poutine est toujours en fait en position de force, parce que, et ça, là je rejoins vos propos, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de réponse noire ou blanche, c'est qu'effectivement, depuis ces événements de 2004, son armée est plus efficace, elle est plus entraînée, il n'y a pas eu de précédent, il y a eu ce qui s'est passé aussi avec la Biélorussie, où il y a un contrôle maintenant russe sur la Biélorussie, donc vous voyez, l'Europe agit, mais l'Europe agit aussi face à un partenaire russe qui a quelques cartes en main de plus que l'Union européenne.
Alors, on risque quoi dans cette histoire ? Est-ce qu'on risque vraiment une invasion de l'Ukraine ? C'est grand, hein, quand même, l'Ukraine comme pays. Bon, c'est beaucoup plus petit que la Russie, mais c'est quand même pas un petit pays en taille. Est-ce qu'on risque réellement, à votre avis, une invasion de l'Ukraine par les Russes ?
Alors, d'abord, si on en croit les sources diplomatiques, ou en tout cas les premiers retours de ces rencontres diplomatiques, d'abord du point de vue européen, on a le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, dont on parle souvent ici à Europa Voice, qui lui précisait que ces rencontres représentaient quand même un élément de détente, même si, et je le cite, le problème n'avait pas encore été résolu. Bon, donc ça veut dire que du point de vue européen, tout espoir n'est pas totalement perdu. Alors, de manière un peu plus intéressante, c'est que même du point de vue russe, en fait, on a l'impression que après ces rencontres, Vladimir Poutine, lui, est prêt d'une certaine façon à entamer la discussion, le dialogue avec l'Union européenne. Il a fait d'ailleurs quelques déclarations aussi en ce sens. Donc, je dirais que oui, la question de l'invasion, elle est toujours présente, elle est toujours là, mais il semblerait que le dialogue ait été établi et que 4 mois finalement après les avertissements ou les sonneries d'alarme des diplomaties à la fois européennes et américaines, on ait choisi en tout cas de mettre le pied sur le frein et puis finalement de voir comment est-ce qu'on peut être dans une, à la fois j'allais dire, une désescalade du projet, mais aussi si l'Europe devait être amenée à réagir, à non pas être dans une riposte encore une fois totale, parce que encore une fois la Russie a plus de cartes dans ses mains que de l'Union européenne, mais en tout cas une riposte graduée avec effectivement plein de problèmes qui restent en toile de fond, notamment un énorme problème qui est celui de l'approvisionnement gazier, parce que en fait, l'Europe est encore très dépendante de ce gaz russe. Donc, vous voyez, on est sur le guet, mais en tout cas, la question de l'invasion, elle reste prégnante, mais ce sera intéressant de voir dans quelques semaines, un mois, où on en est de ces discussions, de ces rencontres bilatérales, ou multilatérales d'ailleurs, entre la Russie, l'Ukraine, les alliés européens et américains.
Vous écoutez le français sur Radio SPS.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Et c'était Odette avec Laisse tomber les filles, une reprise bien entendu de la chanson de France Gall. Vous aurez reconnu cette chanson. Donc Odette, Laisse tomber les filles, et c'est le moment de vous rappeler qu'il y a bien entendu le So Frenchy et So Chic, le concert qui aura lieu demain à Melbourne. Le concert a été annulé à Sydney avec les règles sanitaires, mais heureusement à Melbourne le concert aura donc bien lieu demain à Werribee. Je vous donne rendez-vous sur le site internet donc de So Frenchy So Chic pour voir tout ce qui se passera donc demain sur ce concert. 13h41, et bien on va parler d'un autre événement qui arrive, c'est l'Alliance Française French Film Festival, donc le festival du film français de l'Alliance Française. Ça fait partie du programme de tout ce qui arrive pour vous ce mois prochain à l'Alliance Française. On écoute tout de suite.
plaisir d'avoir sur les ondes de SBS French Johanna Durand, qui est la directrice de l'Alliance française de Melbourne. Bonjour et bienvenue sur SBS, Johanna.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous, merci beaucoup. Et puis bonne année 2022, j'espère sous le signe des arts, de la culture et des voyages.
Absolument, et aussi c'est la rentrée, c'est le retour des classes pour vous, pour le tome 1 à l'Alliance française de Melbourne.
Absolument, on commence l'année sur les chapeaux de roue avec énormément de classes qui sont proposées, donc toujours à Sainte-Kilda, South Yarra, au centre-ville et en ligne pour les enfants, adolescents, adultes. On a beaucoup de nouvelles classes pour les débutants, les étudiants pour le baccalauréat, le VCI, les francophones, les non-francophones, enfin il y a toute une gamme ample de cours qui se sont remplis très vite. Je crois que l'énergie, la motivation et l'inspiration pour apprendre la langue française et échanger en français, avoir des interactions différentes dans la langue de Molière est vraiment là. Donc on est déjà 750 étudiants qui se sont inscrits. Il nous reste quelques places. Si vous êtes intéressé, dépêchez-vous de nous appeler parce qu'il y a beaucoup de cours qui sont complets. Donc les inscriptions se terminent la semaine prochaine. Donc voilà, si vous voulez pas être déçu, venez nombreux, venez avec vos amis, inscrivez-vous rapidement. Je suis sûre que vous trouverez un cours à votre pied. On a des nouveaux enseignants. Enfin, il y a plein de choses nouvelles. Je ne vais pas dévoiler toutes les surprises, mais en tout cas, les étudiants adultes ont commencé cette semaine avec un verre de champagne et des croissants. Et ils avaient un beau sourire aux lèvres. Donc, rejoignez-nous vite pour les cours de français.
3 mars prochain, c'est l'Alliance française French Film Festival qui revient, plus de 40 films à l'affiche, Johanna.
Et ça va être une édition, cette 33e édition va être assez historique à Melbourne, de par les films, de par la durée, puisqu'on fait cette année, donc ça va avoir lieu du 3 mars au 6 avril. Et ensuite, on aura nos petits encore avec le best-of du public qui aura lieu du 7 au 10 avril. Donc, vous aurez un petit mois pour profiter de la belle programmation qui a été dessiné par notre attachée culturelle à Sydney, Karine Maurice, et qui a été également endorsé par 3 ambassadeurs, 4 ambassadeurs australiens. Donc, il y a le réalisateur Philippe Noyce, que vous connaissez, j'imagine, l'acteur David Wenham. On a également un autre réalisateur, metteur en scène de théâtre, Shannon Murphy, et puis la réalisatrice Samantha Lang. Donc, de belles stars australiennes qui ont aidé Karine à dessiner cette programmation et puis à promouvoir ce festival qui est une fenêtre sur la France, sur la francophonie, l'occasion de voyager, de s'échapper et bien sûr de se retrouver autour d'un événement culturel qui a manqué cruellement, particulièrement à Melbourne.
Et on va parler de la opening night, puisque je crois qu'avec le film d'ouverture, les billets vont aller assez rapidement, vont se vendre assez rapidement.
Et oui, comme il est de tradition à Melbourne, on va avoir une soirée d'ouverture digne de Cannes, qui se déroulera au cinéma La Store le 3 mars, avec un film « Les illusions perdues ». Qui a été dirigé par Xavier Giannoli, qui est un très très beau, aussi beau que long film, donc inspiré de l'œuvre de Balzac, et qui a été le coup de cœur unanime. Donc ça va être l'occasion de non seulement de changer de lieu, mais aussi d'époque. Donc je vous invite, les places devraient être en ligne sur le site internet de Palace dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas à acheter vos billets dès que possible.
Et est-ce qu'on peut déjà peut-être faire le point sur les soirées spéciales organisées à Melbourne, Johanna?
Absolument. Absolument, absolument, Jean-Noël. Alors, comme à l'habitude, on a des soirées qui ont été organisées en particulier avec nos partenaires et nos sponsors qu'on remercie chaleureusement, puisque ça a été une véritable collaboration. Alors, il y en aura beaucoup cette année, puisque je crois qu'on partage cette envie de fête, de célébration. On a dit non, il faut qu'on fasse le maximum. On n'a pas de restrictions sur les capacités des cinémas. L'expérience nous a prouvé depuis 2 ans, il n'y a eu aucun cas de contamination au cinéma. Toutes les règles sont respectées de façon stricte. Donc, je pense que c'est vraiment un lieu sécure, dans lequel on peut profiter d'un moment culturel et convivial avec ses amis. Donc, nous avons le mercredi 9 mars, la Journée internationale de la femme, qui aura lieu au Kino, film WeStream avec Juliette Binoche et Didier Pupin. Donc, ça va être une très, très belle soirée avec des délices. Des délicieuses surprises à grignoter pour ce soir-là. Donc, les femmes seront à l'honneur. Il y aura pas mal de surprises. Et c'est un très, très beau film, WeStream, que je vous recommande chaudement pour commencer le festival. Donc, le 9 mars au centre-ville, au Palace Kino. Et ensuite, on a effectivement la Ladies' Night qui aura lieu le 16 mars, cette fois-ci dans 2 cinémas, Palace Brighton Bay et Balwyn, qui va être sur une thématique assez originale et autour d'un film qui s'appelle « Les jeunes amants ». Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir puisque c'est un petit peu une situation inversée. On a Fanny Ardant qui est une femme mûre et épanouie dont un jeune acteur va tomber éperdument amoureux. Donc, il va quitter sa femme, changer sa vie pour une Fanny Ardant dans une étape, on va dire, de troisième âge. Donc, c'est assez original, c'est drôle, c'est très émouvant. Et ça renverse un petit peu les stéréotypes qu'on a l'habitude de voir, on va dire, on a plutôt des hommes âgés avec des jeunes filles. Et là, tout est renversé. Et en même temps, c'est très sincère, très authentique. C'est un amour qui est touchant, qui n'est pas un amour maternel du tout. Ce sont de vrais jeunes amants et qui est très 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 beau. Comme quoi, l'amour n'a pas d'âge. Et la poésie non plus, donc c'est une belle épopée, dans une belle histoire d'amour avec Fanny Ardant, Cécile de France, Melville Poupeau, donc un très très beau film pour la Ladies Night le 16 mars avec au cinéma Brighton Bay et à Balwyn.
Et d'autres soirées spéciales ?
Donc, on continue évidemment le 23 mars. Aucun quartier n'est épargné. Donc, au Palace de Westgarth, ça va être la soirée, on va dire, francophonie, donc avec le Forum de la francophonie. Et un film qui a été tourné à Bamako, puisque c'est Twist à Bamako, le Mali Twist, qui est très très beau. Je pense que beaucoup de gens l'ont vu déjà en France, ça a été un grand succès. Et c'est Bamako, ça nous fait voyager, c'est dans les années 60. C'est très dansant, très musical, très graphique aussi. Et c'est une petite pépite africaine, comme j'aime dire. Donc ça, je vous invite chaudement à venir le 23 mars voir un twist à Bamako. Ensuite, on a le 30 mars, une autre soirée spéciale qui aura lieu cette fois-ci dans le nord de la ville, donc au Palace Pentridge, qui est le tout nouveau cinéma palace qui ressemble un petit peu, qui est une ancienne prison, mais qui ressemble à un château. Pour moi, ça me fait penser au château un peu Walt Disney, où on aura une très belle soirée Taste of France, donc traditionnellement sur la thématique de la gastronomie, avec un film qui s'appelle La Brigade. Qui touche au sujet des migrants et de la cuisine, puisque c'est une chef française qui décide de voilà, de monter un CFA, un centre de formation à la cuisine, de monter un restaurant avec tous ces jeunes migrants. Donc, c'est à la fois l'aventure d'une chef entrepreneur et de migrants qui arrivent en France. Et c'est une très, très belle histoire humaine autour de la cuisine où on voit voilà, toute la fonction fédératrice de la gastronomie. Et le côté humain de l'aventure, vous retrouverez François Cluzet, Audrey Lamy, Chantal Nerouif, Fatoumata Kaba. Donc c'est un film qui est très très épique, très coloré, avec beaucoup d'émotions. Je vous avoue que ça m'a beaucoup touchée. Il y a des moments un petit peu tristes et puis voilà d'autres plus joyeux. Mais ça vaut la peine et puis c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc il y a dans la programmation cette année, il y a des choses très très différentes. Il y a eu beaucoup de films inspirés de livres. Je crois qu'il y a une quinzaine. En attendant Beaujangle, je pense dont vos auditeurs auront entendu parler, avec Virginie Efira et Romain Duris, qui a un très bel ouvrage, qui est facile à lire. Donc, je dirais les lycéens, les jeunes adultes, et puis même si le français n'est pas votre langue maternelle, c'est un petit livre, donc il est facile d'accès et très très. C'est aussi une belle histoire d'amour. Il y a toujours beaucoup d'amour hein, dans la programmation. Les amours d'Anaïs, une histoire d'amour et de désir, avec amour et acharnement. Il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de musique, de danse. C'était très ouvert sur toutes les disciplines artistiques. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour le Cédric Clapiche qui s'appelle Encore. Qui se passe à l'opéra avec une danseuse classique qui a un accident et donc c'est l'histoire de sa renaissance et je trouve que ça colle assez bien à l'époque. Comment guérir, comment panser sa cheville blessée et puis se relever après ce choc qui a mis sa carrière en tout cas de danseuse classique par terre. Donc ça, c'est un très, très beau film. Il y a des surprises. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et je vous invite aussi à aller voir ceux qui vous seriez pas allés normalement. C'est l'occasion, je pense, pendant les festivals d'aller voir des choses différentes. Et là, c'est vrai qu'il y a une sélection assez large. Donc il faut en profiter. Moi j'ai beaucoup aimé le dernier voyage de Paul WR qui est une première en Australie et qui est un petit peu science-fiction, échappatoire. On retrouve Jean Reno, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. C'est très inattendu et pareil, une musique incroyable, une photographie, c'est un véritable voyage et de science-fiction et en même temps on se dit c'est possible.
Allez, viens. Et c'était Benabar avec Renaud, vraiment un duo très sympa. On va manger chez les Corses, Benabar de retour et Renaud également de retour donc pour cette sélection musicale pour le mois de février. Il est 13h et un tout petit peu plus que 58 minutes, on va faire un retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Et dans l'actualité de ce 12 février, les ressortissants étrangers en Ukraine qui sont invités à partir. C'est principalement un message donné de la part des États-Unis, mais également de la Grande-Bretagne. Les États-Unis d'ailleurs qui avertissent qu'une invasion russe pourrait commencer à tout moment. Ils n'ont pas d'indication précise, mais c'est un sentiment des espions et de la défense américaine là-bas. Et le ton qui monte et la pression qui monte sur le gouvernement également au Canada, les camionneurs qui bloquent le pont et la frontière donc physique entre le Canada et les États-Unis. Mmh. Voilà, on arrive à la fin du programme en français sur Radio SBS. Une petite minute pour vous rappeler notre site internet. Tout d'abord, sbs.com.u/french. Je vous rappelle, nous sommes également sur Facebook et sur Twitter. Et le prochain rendez-vous avec le français, c'est demain à 13h avec Jean-Noël Ducasse. Quant à moi, je vous retrouverai mardi et jeudi également à 13h. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.